toutes les femmes sont sœurs. Ben non, pas vraiment. Vous avez pu être citoyenne pendant que d'autres ne l'étaient pas. D'autres qui étaient sous la domination de votre État.
Les discussions autour de la transformation écologique tournent souvent autour des questions techniques, comme la décarbonation ou la résilience. Mais on oublie souvent que le capitalisme a débuté avec l'exploitation des terres et des peuples par le colonialisme.
Le terme n'a pas du tout disparu. On voit qu'il y a quelque chose de profondément lié entre capitalisme et colonisation.
Cette colonisation a pris beaucoup de formes à travers l'histoire. Autrefois, elle concernait l'appropriation des ressources et des corps, mais aujourd'hui, elle s'infiltre jusque dans notre culture et nos imaginaires. Et même là où on ne l'attend pas, comme dans des luttes féministes.
Donc on se retrouve dans une situation où il faut définir des féminismes qui quand même s'opposent aux dominations, tout en refusant ce féminisme que moi j'appelle civilisationnel, qui est quand même né dans un monde dont la richesse se construisait sur la colonisation.
Dans un monde complexe où les opprimés font aussi partie des oppresseurs, comment converger les luttes sociales et environnementales sans reproduire des dynamiques coloniales antérieures? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, la chaîne pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Vergès. Elle est doctorante en sciences politiques, militante pour un féminisme antiraciste et anticolonial, et est l'auteur de plusieurs ouvrages comme « Le ventre des femmes » ou « Un féminisme décolonial ». Dans cette discussion, nous parlerons des nombreuses formes du colonialisme à travers le temps jusqu'à aujourd'hui, de la manière dont le capitalisme tente de récupérer le féminisme et des pistes vers un féminisme véritablement décolonial. Cet épisode est sponsorisé par le média Tilt. Plus sur ce média plus tard dans la vidéo. Voilà. Bonjour Françoise Vergès.
Bonjour. Bonjour.
Merci de venir sur ce podcast. Je pense que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent souvent connaissent les thématiques, disons, transition écologique, mais comme je l'ai dit à l'introduction, il y a quand même les racines des enjeux qui sont souvent oubliées ou en tout cas passées sous le tapis. Peut-être qu'on peut commencer par une distinction assez importante qui est celle du colonialisme et de la colonisation. C'est quoi la différence entre ces deux termes ?
Je dirais que la différence entre colonialisme et colonisation, elle est de plusieurs ordres. D'une part, le colonialisme, c'est aussi un régime, une série de lois, de normes mises en place, qui a quand même pris fin dans sa forme, sous sa forme, avec les indépendances, sauf peut-être en Israël encore aujourd'hui, ou peut-être dans un ou deux autres endroits, au Cachemire, en Inde. Mais la colonisation, elle peut se poursuivre après la fin du colonialisme. Elle est accaparement des terres, elle est aussi dans les formes même de l'organisation de la force du travail au niveau international, comment était organisée l'échelle aussi du travail et la valeur du travail, la valeur sociale du travail qu'apportent les personnes du sud global ou au nord de minorités racisées. Donc la colonisation, elle se poursuit, elle est même au cœur toujours d'un vocabulaire politique, de coloniser Mars, de coloniser l'Amazonie. Le terme n'a pas du tout disparu. On voit qu'il y a quelque chose de profondément lié entre capitalisme et colonisation. C'est la colonisation aussi des esprits, la colonisation des désirs, enfin toute une sorte de choses que beaucoup sur lesquelles se sont penchés des chercheurs et des théoriciennes et théoriciens. La colonisation, c'est vraiment le fait de par des forces, par les classes dominantes, d'occuper la vie des personnes, leur vie psychique, leur vie physique et leur environnement. Et de là, effectivement, on peut analyser aujourd'hui comment cette colonisation agit sur les personnes et sur les terres et aussi les espèces non humaines. Quels sont les effets nocifs de cette colonisation qui est vraiment intrinsèque au capitalisme racial patriarcal? On voit comment le capitalisme a toujours besoin de nouvelles frontières, pour parler ainsi, de nouveaux espaces, de nouvelles marchandises. Donc c'est une constante production de marchandisation. Quand on visite par exemple un musée d'histoire naturelle, on voit par exemple quels ont été les bois qui sont devenus des bois précieux, les minéraux qui tout d'un coup deviennent des minéraux précieux, les oiseaux empaillés, les animaux empaillés. Enfin, cette incroyable soif de la colonisation, de transformer des choses vivantes, des choses qui étaient dans le monde, qui vivaient, dans un monde culturel, social, affectif, même je parle d'espèces non humaines, en fait, dans leur environnement, pour les transformer en choses. en chose, mais vraiment en objet de consommation, c'est-à-dire en objet qui doivent être éjectés de leur environnement, qui doivent être séparés, exilés de leur environnement. Donc, c'est pas la même chose que l'objet qu'on a chez soi. Il y a quand même un lien affectif. Les êtres humains ont des liens affectifs aux objets. Et puis, de souvenirs, enfin, des tas de niveaux. C'est pas la même chose que quand, la question de tuer l'objet, d'en faire, vraiment, de faire qu'il n'y ait plus de lien du tout avec un environnement social, culturel, affectif, sacré.
C'est un arrachement de son environnement.
C'est l'arrachement, oui, c'est cela qui transforme en objet de consommation et qui fait... Enfin, moi qui travaille par exemple sur le musée, je suis frappée de ces objets qui, hier, appartenaient à un monde, je ne sais pas, moi, une statue de déesse qui était aimée, qui était, à qui on venait offrir des fleurs, de la nourriture, à qui on venait parler, faire des promesses. Et là, elle n'est plus qu'une statue de pierre ou de bois. Et je ne peux pas la toucher, je ne peux certainement pas lui faire des offrandes. Elle est désignée par un nom et un siècle où elle aurait appartenu et un lieu d'où elle viendrait. Ce n'est pas du tout la même chose que si je l'avais vue dans un temple. Bon, alors je donne cet exemple, mais c'est des exemples de bols, c'est des exemples de tapis, c'est des exemples... Enfin, c'est sans fin. C'est sans fin. Et c'est dans les magasins, c'est surplus de marchandises qu'on voit... Parce qu'il faut constamment en produire de nouvelles. Et pour moi, surtout, c'est la production, la colonisation, c'est une production de déchets, pas seulement de marchandises. En fait, de marchandises déchets, on pourrait dire.
Ouais. Je pense que c'est Jason Moore qui parlait de capitalocène, mais aussi de parler de que le capitalisme a créé la nature uniquement pour pouvoir la détruire. Qu'il y a eu ce dualisme qui a pu apparaître uniquement pour le marchander, l'exploiter, et puis le... commodifier, si on veut.
Oui, en même temps, soyons prudents. Je veux dire, il y a eu des empires et des royaumes en dehors de l'Occident, avec une relation aussi, quand même, de chosification ou de commodification des êtres humains et de l'environnement autour. Ce que le capitalisme occidental fait, c'est d'étendre sur la planète un système. C'est-à-dire que c'est toute la planète qui doit être au service de cette commodification. Rien ne doit échapper à son regard et à son avidité. Du plus haut sommet des montagnes, au fin fond des forêts, et aujourd'hui au fin fond des océans, rien ne doit lui échapper. Donc c'est plutôt cet aspect planétaire, je dirais, qui aujourd'hui met en danger la vie de l'espèce humaine et d'espèces non humaines.
Il y a un livre de Raj Patel sur l'histoire du monde à travers cette chose. Et là-dedans, il parlait par exemple de l'île de Madère comme étant une île qui a connu des vagues d'exploitation les unes après les autres, étant d'abord le sucre, puis les esclaves, puis... il y en a eu plein d'autres jusqu'à aujourd'hui, que ça soit le tourisme et avoir un tourisme sur le passé colonial. Enfin, il y a cette... Je retrouve énormément cet aspect de que tout est une question de temps avant que ça redevienne un nouvel objet.
Moi, pour mon exemple, ça serait l'île Maurice, qui est dans l'océan Indien. Alors, c'est une île comme l'île de la Réunion d'où je viens, sans population native. Donc, quand les Européens arrivent, pour eux, c'est le paradis. Alors déjà, il y a tout le paradigme du paradis sur lequel on pourrait revenir. Et la première chose que les Européens font, c'est de détruire le paradis. C'est-à-dire à la fois de le décrire et de le détruire. Donc, à l'île Maurice, ce qui est très connu, c'est la destruction du dodo, cet oiseau, qui ne connaissant pas de prédateurs, ne volait pas. Et on voit, d'après des gravures de l'époque, que non seulement les marins et autres n'en tuent pas un ou deux pour manger, mais en tuent des dizaines et des dizaines. Donc quelque chose qui vient de la tuerie absolument gratuite, puisqu'ils ne vont pas manger tous ces dodos. Une fois les dodos exterminés, en quelques dizaines d'années, en quelques décennies, on se tourne, c'était les Hollandais, on se tourne, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à extraire ou à détruire? Et ce sont les immenses forêts d'ébène. Et à l'époque, ce bois est extrêmement admiré pour sa dureté et sa beauté, ce noir profond qu'il a. Et en Europe, beaucoup de meubles se font en ébène, et notamment parce qu'on découvre aussi l'incrustation, donc l'incrustation d'ivoire fait vraiment un contraste très beau. Une fois les forêts détruites, les Hollandais laissent l'île et partent vers Java parce que là, il y a encore de nouvelles choses. Et aujourd'hui, les Maurices, après, ça a été le sucre et aujourd'hui aussi le tourisme. Mais c'est aussi pour moi épuiser l'économie d'épuisement. On épuise une ressource. Et quand les colonisateurs, c'est épuisé, on passe à un autre endroit pour en épuiser un autre. L'économie vraiment d'épuisement. Mmh. On ouvre une mine. On épuise la mine, qui peut être de charbon, d'or, d'argent, de cobalt, enfin de 25 000 choses, et on pousse, on bouge. Et le capitalisme laisse derrière, et le colonialisme aussi, des terres dévastées, absolument dévastées. On ne rebouche pas le trou.
Oui, bien sûr.
Et on peut revoir sur des photos des choses absolument énormes. Les forêts sont dévastées, les rivières sont dévastées, les montagnes sont dévastées. Il y a aussi toute une géographie coloniale qui impose des routes parce qu'il faut emmener d'un endroit à l'autre les ressources, où vont être les villes, où vont être les ports, et qui impose donc une nouvelle géographie de l'espace qui, avec laquelle, au XXIe siècle, nous vivons encore quand nous allons si nous allons sur ces terres. On le voit, c'est très clair. Donc il y a aussi, c'est pas simplement une couche sur l'autre, c'est aussi d'un épuisement à l'autre. Et aujourd'hui, par exemple, le tourisme épuise des ressources. À l'île Maurice, c'est l'eau, la pollution, des lagons, et justement, donc, comment remplacer par des artificialités ou par encore plus, donc, d'extraire les ressources et de laisser derrière. Donc, vous pouvez avoir les resorts à 6 étoiles ou je ne sais combien sur la côte, ouais. Et derrière, des populations de plus en plus dévastées. Donc aussi, une construction d'une géographie en enclave, le tourisme, c'est vraiment une économie et une géographie en enclave, là, de beaux jardins, des piscines débordantes, enfin, le sentiment d'être quand même sous les tropiques, que ce soit beau, je suis quand même allée jusque là-bas. Et derrière, un épuisement des sols, des personnes sans eau, sans électricité, et qui n'ont plus que comme travail d'être jardinier, bonne, domestique, masseuse, travailleuse et travailleur du sexe pour cette population. Donc, c'est pas le même espace non plus qui est totalement occupé.
Une reconfiguration.
C'est des reconfigurations au service, évidemment, de la ressource qui, à ce moment X, est importante. Mais ça repose énormément sur la dévastation et l'épuisement. Et donc, de chercher toujours des endroits nouveaux, ou de construire des îles artificielles, de sauver aussi, puisque que ce soit Madère, l'île Maurice ou les îles Maldives, il faut aux classes dominantes du monde, pas seulement occidentales, des espaces où justement retrouver une nature, quel que soit ce qu'on appelle, qu'elles ont détruite ailleurs. Et on le voit de plus en plus. Ouais. On le voit de plus en plus. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, cette extermination aussi, par exemple, à l'île Maurice ou à Madère ou ailleurs, elle s'accompagne à cette époque d'un besoin de conservation. Il n'y a pas d'extermination sans conservation. Et donc le dodo exterminé va se retrouver empaillé dans les musées ou sous forme de dessin. Donc le capitalisme colonial veut garder des traces de ce qu'il l'a exterminé. Donc il y a aussi dans ce jeu d'épuisement-extermination la conservation et la muséification de ce qui a été exterminé, et que ce soit aussi des populations autochtones dont on verra après des représentations de ce qui fut et a disparu.
D'ailleurs, vous utilisez également, je pense, l'exemple des bananes.
Oui.
Pour exemplifier ça, je trouve que ce soit les lieux géographiques situés ou un aliment ou un objet parle le plus pour comprendre toutes les facettes et tous les angles, en fait, toutes ces dimensions multiples.
Pour moi, la banane, c'était... Bon, d'abord, c'est un fruit qu'on en trouve partout, qui est très familier. On le trouve même dans les aéroports, enfin partout, quoi, je veux dire. C'est aussi un aliment recommandé pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les malades. C'est plein de choses très, très bonnes. Et donc, il me semblait que, pour des ateliers ou des conférences que j'avais faites, de partir de cet objet pour tirer plusieurs fils et de montrer comment aussi il y a des interactions et des intersections. Donc, c'est pas que l'un est la cause de l'autre, mais que si nous tenons tous ces fils ensemble, quelque chose va se comprendre à partir de ce fruit banale, on pourrait dire. Alors d'abord la géographie, d'où ça vient, la Nouvelle-Guinée. Ensuite, à quoi ça sert? Alors au Japon, ça devient une fibre, ça sert aussi pour le toit des maisons. Ensuite, ça circule, puis ça va être lié à l'esclavage colonial. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de voir aussi à quel moment ça devient un fruit pour la consommation aux États-Unis. Donc tout ce qui va s'accompagner, c'est-à-dire justement toute une publicité, des livres de recettes, parce qu'il faut faire entrer ça dans les maisons des suburbs américains, et donc des concours autour de recettes, et aussi l'invention de la réfrigération qui permet aux paquebots d'apporter des bananes non mûres, puis de les faire mûrir pour les revendre ensuite. Toute une série qui s'accompagne de la publicité, de Juanita Banana, de la sexualisation d'une femme sud-américaine liée à la question des bananes. Enfin, comment vraiment s'organise toute une série de choses qui fait objet de désir, mais aussi bon, qui entre dans la vie quotidienne de millions de personnes, et qui repose aussi sur les coups d'État des républiques bananières en Amérique centrale, et aussi aujourd'hui les plantations de bananes remplies de pesticides et d'insecticides, où il est dit par les environnementalistes que les plantations de bananes sont les plus silencieuses au monde, parce qu'il y a tellement de pesticides et d'insecticides qu'il n'y a plus un seul insecte, les maladies que ça entraîne, les cancers, les interruptions de grossesse, enfin toute une série de problèmes de santé, et puis un régime plantationnaire qui se poursuit, c'est-à-dire l'économie plantationnaire demeure, c'est-à-dire la plantation n'a pas disparu comme modèle de travail et d'exploitation. Puis évidemment, la banane dans la musique, la banane dans le cinéma, la banane dans la sexualité. En fait, tout cela, si vous voulez, c'était de montrer la richesse qu'on pouvait tirer à partir d'un objet, donc d'un fruit banal, scientifique, géographique, sociologique, politique, historique, économique, sacré, et qui permettait là de sortir d'un récit linéaire ou binaire.
Peut-être c'est juste parce qu'on exemplifie ça, mais ça permet vraiment de situer géographiquement, temporellement, des processus qui sont difficiles de palper, tellement qu'ils sont nombreux et tellement qu'ils sont complexes. On pourrait faire le même exercice, j'imagine, pour le sucre. On pourrait faire le même.
Pour des tas de choses, je l'avais fait pour le sucre d'ailleurs, comment le sucre introduit en Europe, comment l'importance que l'apparition de cette chose et comment ça va transformer les mœurs occidentales, mais profondément, les mœurs sociales. Vous venez chez moi, je vous demande si vous voulez un café avec du sucre et je vous l'offre. Donc il y a le café et le sucre, ça fait partie de ces mœurs, je veux dire, de l'accueil même. Voilà, ça fait partie d'une sociabilité. On va boire un café même encore aujourd'hui. Enfin, toute une série de choses, mais aussi le sucre apporte la pâtisserie, fait développer la pâtisserie énormément. Le gâteau de fiançailles, il est imaginé, créé. Il entre dans la littérature, il entre dans la chanson, enfin toute une série de choses, il est associé au doux, enfin toute une série linguistique aussi, tout un champ linguistique. Et quand j'avais fait notamment un atelier autour de la banane dans le nord-est de Myanmar, avec des femmes de tribus ou autres, elles avaient tout de suite dit « on peut faire ça avec le riz ». Et j'avais dit « bien évidemment ». Donc c'était aussi, en fait, de dire, mais voilà, ça c'est une méthode qui est accessible finalement à tout le monde et qui va vous faire comprendre comment le colonialisme, le capitalisme, la science y apporte, la question de certaines disciplines ont contribué à cela, mais aussi comment des communautés se sont appropriées et ont détourné ces choses qui arrivaient chez elles.
Enfin, étant d'origine grecque, c'est vrai qu'on ne peut pas s'imaginer ne pas avoir la tomate dans notre cuisine, mais voilà. Et c'est aussi comprendre que le colonialisme a aussi débuté pour des histoires d'épices, pour des histoires de... Enfin, pas que, mais sous le couvert de...
Beaucoup, beaucoup. Je veux dire, le poivre est une denrée très chère. Le clou de girofle aussi... enfin, la noix de muscade, enfin, toute une série de choses. Et c'est aussi de voir comment ça transforme les cultures populaires. Donc, il y a les classes dominantes, mais aussi comment ça rentre dans les cultures populaires. Pas seulement les classes dominantes, mais aussi les classes populaires.
J'aimerais qu'on parle, parce qu'on a parlé un peu d'un point de vue historique, mais aujourd'hui même, nous faisons quand même face à des nouvelles, une nouvelle mouture, un nouveau moyen d'expression de ce néocolonialisme, si on veut. Et il y a des nouvelles frontières, comme on a parlé. Il va y avoir, si on parle de transition écologique, ça va être le lithium, le cobalt et autres. Mais aussi, ça va être, certes, on a créé le salariat. Ça permet aussi d'avoir un nouveau précariat pour certaines personnes. On peut parler, par exemple, du rôle de la main-d'œuvre féminine qui a été importée en France. Quels sont ces nouveaux moyens d'expression qu'on voit aujourd'hui qui sont des fois passés sous le radar?
Pour dire, moi, ce que je pense que le capitalisme racial patriarcal a fabriqué un monde irrespirable et inhabitable pour des milliards de personnes sur Terre. Littéralement. Pas du tout une métaphore. C'est réellement irrespirable. Il y a des millions de personnes qui ne respirent pas de l'air pur, qui meurent. Le nombre de morts par problèmes respiratoires, asthme, grandit énormément, pollution, tout cela. C'est la cause la plus élevée, le taux de mortalité le plus élevé dans le monde, plus que n'importe quelle autre maladie. Et inhabitable, ça va se multiplier avec le désastre climatique. Inondations, sécheresses, enfin tout ce qu'on voit déjà. Tout ce qu'on voit déjà. Donc la question environnementale se pose aussi à partir de là. Je veux dire, les questions de transition ou d'énergie renouvelable ne répondent pas à ce constat qui n'est pas demain, qui est d'aujourd'hui. Ouais. Si des tas de personnes partent sur les routes, échappent et risquent la mort, c'est aussi pour échapper à des situations intenables. Quand vous avez 50 degrés, je sais pas, il y a un an ou deux, au Pakistan ou en Inde, ce n'est pas possible. Le corps humain ne tient pas. Donc pour moi, je me suis dit, enfin c'est pas dans le féminisme colonial, mais dans un livre qui va paraître cette année, c'était de partir de la question donc de la vie, des conditions de la vie. Et si je partais de là, comment je pouvais comprendre aussi toutes ces questions que vous posez? Après les grandes inondations au Pakistan, les ONG se précipitent, enfin je veux dire, il y a toute une série de choses quand même comme toujours, mais n'avait pas vraiment été pensé le fait qu'il y aurait beaucoup de femmes enceintes. Pratiquement rien n'avait été prévu, comme clinique, comme soins, et donc il y a eu beaucoup de problèmes ou de naissances avant terme. Et aussi le manque de serviettes hygiéniques, ce qu'on voit d'ailleurs à Gaza aujourd'hui, où les femmes sont obligées de déchirer des morceaux de tente pour... Pour moi, et je l'avais vu aussi en Turquie, après le tremblement de terre, même chose. Et avec les femmes ne sachant pas où aller faire pipi, je veux dire, faire leurs besoins, ou se laver, c'est-à-dire un besoin d'intimité qu'elles ne pouvaient pas avoir. Et cette indifférence ou cette méconnaissance de ces besoins vitaux m'a semblé un point intéressant de voir justement dans la politique environnementale, pourquoi la politique environnementale n'arrivait pas à intégrer ces choses-là. Et évidemment, était toujours plutôt tournée vers l'étude des solutions technologiques, la critique de ces solutions à laquelle j'adhère. Mais en fait, si nous partions des besoins vitaux, je me disais, mais ce serait la révolution. Parce que si... Il y a de l'eau propre, s'il y a de l'air propre, s'il y a de la terre, des logements, des capacités pour les femmes d'intimité, c'est la révolution. Ouais. C'est la révolution.
Ben oui.
Puisque si ce n'est pas accessible, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas vrai, c'est pas parce que s'il n'y a pas de service hygiénique, c'est fabriqué ainsi. Ma question, ça a été, mais alors, si je pose la politique environnementaliste décoloniale à partir de cela, et pas seulement à partir de vos solutions technologiques ne sont pas des... auxquelles, je répète, j'adhère entièrement. Enfin, j'adhère à cette critique. Mais quand on part de là, on voit que c'est un bouleversement profond du capitalisme racial patriarcal qui sera mis en cause. Parce que cette organisation, cette fabrication de vulnérabilité, si elle est mise en cause, c'est une transformation profonde. Absolument profonde. Donc, de là partaient, effectivement, toutes les questions que je pose aussi après dans un féminisme décolonial, c'est qui nettoie le monde ? Qui nettoie le monde ? Et que sans le travail quotidien, matin et soir, de milliards de femmes dans le monde, pays du Sud global inclus, pour nettoyer les banques, les bureaux, les écoles, les universités, les bâtiments administratifs, le lieu de la présidence, le lieu de l'Assemblée nationale, etc., enfin, partout ce qu'il y a, de la vie sociale, donc pas simplement le lieu intime, sur lequel tout un féminisme s'est penché à juste titre, ben ça ne fonctionnerait pas. Après 3 jours, la société s'arrête. Vous n'allez pas déposer votre enfant dans une crèche où les déchets se sont accumulés, où ça n'a pas été lavé, où les toilettes ne sont pas propres, où les couloirs ne sont pas propres. Ce n'est pas possible. Et cette attente que quand j'arrive dans mon bureau, quand j'arrive à la banque ou à la poste ou que sais-je, que ce soit propre pour que je fasse mon travail ou que j'utilise cet espace, que je puisse en cliente aller à la poste, hein, je ne peux pas traverser un champ de déchets avec des rats qui circuleraient et des cafards, etc. C'est pas possible, ça n'est pas pensable et ce n'est nulle part. Donc en partant de qui nettoie le monde, est-ce que cette question est pensée dans l'écologie même décoloniale, c'est-à-dire qui va assurer le nettoyage après la révolution, pour parler ainsi. Vous voyez, comme des féministes en 70 qui disaient « Qui va nettoyer les chaussettes des révolutionnaires après la révolution ?» Moi, je dis, mais est-ce que cette question du nettoyage, c'est-à-dire cette question des déchets, de production de déchets, est pensée par l'écologie, même donc radicale, même un certain féminisme, au-delà de ça. Et ça me frappe parce que, voilà, moi je pars de même presque de mon corps, quoi, et des besoins de mon corps, quoi, je veux dire, et que je ne peux pas les éviter. Il y a des médicaments aujourd'hui pour faire arrêter les règles, d'accord, mais même si ça, ben, je vais avoir besoin d'eau. On n'a pas encore inventé un être humain qui peut survivre sans eau ou dans l'air pollué. Alors, dans l'air pollué, on va me dire on peut tous se promener avec des masques à gaz. D'accord, bon, on ne veut pas vivre dans un monde où tout serait pollué et où on n'inventerait que des défenses, enfin des prothèses de défense contre tout cela. Et pour moi, c'est vraiment le fait que vraiment des milliards de personnes aujourd'hui sont confrontées à un environnement irrespirable et inhabitable, et que je trouve ça absolument scandaleux.
Qui va devenir hostile malgré nous. Enfin, je pense que vous avez parlé de qui nettoie le monde, on va parler peut-être dans un tout petit peu également de la caring class, enfin de la classe qui s'occupe aussi du monde, enfin qui prend soin du monde. Peut-être que c'est un bon moment pour ouvrir la porte du féminisme décolonial. Dans cette nouvelle mouture du néolibéralisme, on fait un espèce de greenwashing ou corporate washing de beaucoup d'enjeux, afin peut-être de ne pas savoir qui est le vrai ennemi. Je ne sais pas comment on peut prendre ça en compte. Mais en tout cas, par le passé, le féminisme avait l'air d'être une lutte réactionnaire envers beaucoup d'enjeux simultanément. Et aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas.
Enfin, il y a eu un féminisme qui a voulu devenir hégémonique, qui craignait les féminismes venus du Sud, mais aussi en Occident, matérialistes ou féminisme noir aux États-Unis, ou enfin des formes de féministes qui questionnaient l'universalisme que prétendait avoir ce féminisme. Toutes les femmes sont sœurs. Globalement, ben non, pas vraiment. Je veux dire, c'est pas. Il y a des grandes sœurs, des petites sœurs, et puis des sœurs par alliance. Enfin bon, toute une série d'hiérarchies. Et là, il y a eu une reprise en main, enfin c'est ce que je propose dans le livre, une reprise en main par ce féminisme au niveau même global, notamment quand je reviens sur la décennie de la femme de l'ONU, qui est la réunion qui se passe à Nairobi est absolument, les femmes du Sud sont extrêmement présentes. Pour la première fois, il est question de la Palestine. Première fois, je dirais, il y avait aussi l'Afrique du Sud était encore sous l'apartheid. Enfin, Angela Davis est là, mais d'autres aussi, beaucoup de voix de femmes du Sud se font entendre en disant « Non, mais ça ne se passe pas comme ça. » Et la première s'était passée à Mexico City, la première conférence, mais celle de Nairobi est vraiment fait apparaître une incroyable aspiration, je veux dire, venant du Sud, des femmes disant « Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est pas, nous, on veut aussi poser ces questions-là. » Et énormément de tensions. Et pour moi, le fait d'ajouter une dernière conférence à Pékin, qui sera la dernière, alors qu'elle n'était pas prévue, et que la séparation des délégations officielles dans la ville même, bien accueillie, et le village des ONG bien loin de Pékin, très difficile, et à l'époque, il n'y a pas de email, il n'y a pas de... il n'y a pas de, je veux dire, tous les réseaux sociaux. Donc, très difficile, ça passe par fax, etc., très difficile. Et donc, vraiment, l'éloignement, alors que dans les autres, les deux ont été en contact, et donc, le questionnement des délégations officielles, mais vous faites quoi ? Et pour moi, donc, symptomatique d'une reprise en main, et le discours de clôture est fait par Hillary Clinton. Donc, il y a pour moi, à un moment donné, là, vraiment un glissement qui fait que la question des femmes, enfin, ce qu'on appelle la question des femmes et des droits des femmes, tels qu'ils ont été formulés à un moment donné en Occident, est repris et donc détourné par les grandes organisations internationales et puis par les grandes fondations privées qui, dès les années donc 80, milieu des années 80, vont devenir celles qui vont dicter beaucoup de politiques pour les femmes dans les pays d'issue globale, sur le continent africain, continent asiatique. Mais on le voit vraiment arriver sur cette question d'égalité, et ça devient quelque chose, c'est vraiment incontournable. Il n'y a pas une activité économique, de développement, enfin tout ce qu'on s'est appelé le développement, sans un chapitre égalité des femmes. Alors, a priori, on va se dire, c'est bien, tant mieux. Bon. Mais la manière dont ça se met en place une idéologie de développement, l'idée de ce que c'est que le développement, l'idée de ce que c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes, qui viennent de cette idéologie. Donc, avec des effets, évidemment, parfois contradictoires, parce que parfois, il y a quand même des femmes qui vont en bénéficier dans le monde global, mais qui, quand même, perpétuent le fait qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de souveraineté des femmes et des populations même du sud global dans ces décisions. Donc toute une série de choses se met en place qui va se consolider dans les années 90, les années 2000 et qui aujourd'hui fait qu'il y a un féminisme que perpétuent les fondations privées, les organisations internationales, les ONG et qui perpétue donc tout un discours, une ONGisation comme on dit, des questions, des politiques autour des femmes. Et puis cette notion, surtout des femmes, dont on ne sait pas très bien quoi qu'est-ce, mais qui, comme j'essaye de le démontrer, va avoir du succès parce que qui est contre les droits des femmes ? Et ce que je suggère, c'est qu'en fait, c'était l'arme que ces féministes du Nord offrent au néolibéralisme et à l'impérialisme, parce que c'est une arme idéologique et puis concrète, très forte, enfin je veux dire très puissante, beaucoup plus puissante que on va vous apporter la civilisation. Ça marche plus, ça marchait plus très rapidement dès les années 50, 60, enfin déjà avant dans tout le mouvement anticolonial, puis avec les indépendances ça marche plus. On va vous apporter le progrès, c'est déjà aussi un peu quand même c'est questionné. Mais les droits des femmes, qui peut être contre ? Qui peut être contre, avec aussi cette production énorme de témoignages dans les années 80-90 d'exploitation et de subjugation des femmes dans des tas de sociétés, et qui est vrai, et qui est vrai. Donc on se retrouve dans une situation où il faut définir quels vont être des féminismes qui quand même s'opposent aux dominations et aux formes d'exploitation qui visent les femmes, ou les trans, ou les quoi, enfin, qui visent ce qui n'appartient pas à la norme hétérosexuelle masculine dominante, donc quand même de s'opposer à ça, tout en refusant ce féminisme que moi j'appelle civilisationnel, puisque je dis qu'il emprunte énormément au discours de la mission civilisatrice coloniale.
Prenons un exemple du passé, mais on peut en citer plein d'autres dans le présent. Vous notez par exemple à l'île de la Réunion, Madame Desbassins.
Oui, Madame Desbassins.
Voilà, qui est une des plus grandes esclavagistes. Elle n'avait certes pas le droit de vote ni de passer le baccalauréat, mais elle avait quand même le droit de posséder des êtres humains.
Oui, c'est ce que je dis aussi, si vous voulez, c'est que dans le récit des droits, de la lutte pour les droits des femmes en Europe, qui culmine avec le droit de vote, qui est vu comme quelque chose quand même, on devient citoyenne et on participe, donc d'aller à l'école, d'avoir le baccalauréat, de devenir médecin, de devenir
avocat,
ou même des droits quand on est ouvrière dans l'usine, ne tient pas compte d'un droit que des femmes obtiennent dès le 16e, 15e siècle, c'est celui de posséder des êtres humains, d'être à la tête de plantation. Donc Madame Desbassins, c'est bien plus tard à La Réunion, mais enfin quand même aux États-Unis, il y a des femmes à la tête de plantation. Et puis il y a des historiennes qui ont montré que ces femmes participent au marché d'esclaves, comprennent tout à fait comment il faut négocier, comprennent que posséder un être humain, c'est avoir un capital, comme un capital mobilier, puisqu'en plus, donc, l'être humain est vu comme un mobilier. Et elles le comprennent, puisque des études montrent que même certaines femmes, dans leur, quand elles, aux États-Unis notamment, parce que c'est un livre sur les États-Unis, ces femmes blanches, quand elles épousent donc un homme, elles exigent que dans le contrat, ces êtres humains restent son capital. Parce qu'elle sait qu'elle peut les vendre, les échanger, les louer. Et donc, c'est appartient à elle, c'est son capital, c'est pas quelque chose que son mari peut posséder. Donc, ces femmes ont très, très bien compris quelle était cette économie et comment la capitaliser sur cette économie. Donc, ce droit de posséder les êtres humains, ce droit de trafiquer avec des êtres humains, est un droit qui doit être pris en compte quand on analyse les droits qu'ont gagnés les femmes des classes dominantes blanches en Europe ou en Occident. Je veux dire, sinon, on parle de quoi ? On parle de, parce que ce droit à la propriété privée qu'elles vont exercer leur donne un capital. Et ensuite, dans les colonisations post-esclavagistes, elles vont aussi être à la tête de plantations. Elles vont, elles ne sont pas à l'extérieur entièrement de l'économie capitaliste. Elles sont moins importantes, évidemment, que les hommes. Les hommes dominent cette économie esclavagiste et post-esclavagiste, mais elles ne sont pas entièrement exclues. Ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a fait? Et pour moi, la question, quelle est la complicité que ça entraîne? Pas nécessairement de manière formulée, mais de manière de fait. Vous avez participé. Donc, comment vous revenez sur cette histoire pour repenser justement comment vous décolonisez, si on utilise ce terme, votre féminisme. C'est-à-dire que je n'ai pas, en tant que lui-même, de réclamer des droits, je ne vois pas en quoi ça serait, c'est pas cela que je questionne, mais votre récit sur les droits et la manière dont vous pensez les droits repose sur une conception de votre société qui s'est construite sur la colonisation esclavagiste et post-esclavagiste. Vous avez pu être citoyenne pendant que d'autres ne l'étaient pas. D'autres qui étaient sous la domination de votre État.
Oui. Ou de vous directement.
Ou de vous directement.
Oui.
Vous avez des études sur ce qu'ont été les femmes dans les sociétés coloniales. Mais il n'y a pas vraiment, si vous voulez, le fond, en quoi le féminisme est une idéologie qui est quand même née dans un monde dont la richesse se construisait sur la colonisation. Puisque les complicités entre socialisme, trotskisme, anarchisme et même communisme et monde impérial ont été interrogées, ont été questionnées. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, par exemple, donc, toute cette recherche, est-ce qu'il y a chez Marx, chez Lénine, chez d'autres, qu'est-ce qu'il y a inconsciemment ou consciemment, une idée quand même de supériorité de l'Europe ou de supériorité de l'ouvrier européen pour l'idéologie libérale aussi. Pour l'idéologie de la démocratie libérale. On peut donc le faire pour le féminisme.
C'est un peu une méthode, comme vous dites, qui doit être appliquée, parce qu'aujourd'hui, le problème ou le danger, c'est que l'extrême droite, par exemple, s'accapare ou utilise le mot féminisme pour bien isoler certaines parties des femmes ou certaines parties des populations. C'est-à-dire, vous mettez un bikini ou alors vous n'êtes pas... une femme. Il y a des discours complètement dangereux qui s'immiscent sous la vertu du
parce
féminisme.
Parce qu'il y a un féminisme qui a prêté le flanc à cette instrumentalisation. En posant qu'est-ce que c'était qu'une femme libre et moderne. Et il est certain qu'il y a des oppressions dont il faut parler. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que partout, tout est pareil, que... j'y repensais parce que je me disais que parfois je vais trop vite, si vous voulez, je vais trop vite en parlant quand même. Les femmes sont quand même opprimées. Les femmes sont quand même opprimées. C'est pas parce que les cultures seraient non occidentales qu'elles seraient moins plus ouvertes à la question des femmes. Non, il y a quand même, je sais pas, quand il y a des sociétés où, par exemple, pour l'héritage, la fille va recevoir la moitié du frère, on peut quand même se dire « ça va pas, quoi ». Et c'est pas faire critique, je veux dire, mais c'est de dire « non, ça va pas ». ça va pas. Ou quand les garçons doivent devenir ceci ou cela et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et ne pas vouloir être des hommes au sens de la masculinité dominante, tout ça devrait être à accepter. Les féministes d'Amérique centrale, les féministes notamment des populations autochtones, qui sont profondément décoloniales, elles disent pas de décolonisation sans dépatriarcalisation. Et elles ne parlent pas du patriarcat de la classe dominante, elles parlent du patriarcat dans leur communauté. Et ça, parfois, je trouve, et peut-être moi-même, je me laisse prendre, qu'en France, par exemple, du fait de ce féminisme civilisationnel qui attaque énormément les femmes voilées et le féminisme noir, on peut parfois se laisser aller à une idéalisation. Alors que non, c'est pas ça. Il faut tenir vraiment les deux choses ensemble. Mais ce féminisme a donné des armes à la droite néolibérale, au néolibéralisme et à l'extrême droite. Et donc il faut absolument tenir ce chemin de crête qui est effectivement. Nous ne voulons pas que les femmes soient dominées ou écrasées, ou toutes les personnes qui, les enfants, les trans, les queers, tout ça, mais ça ne sera pas au nom de votre civilisation.
Je pense que c'est vraiment un nœud gordien de garder en tête.
Absolument. Ce n'est pas toujours facile, et ce n'est pas toujours clair, et binaire, aussi binaire que parfois même on peut le présenter dans le camp décolonial. Je tiens à le dire, parce que c'est difficile, évidemment, quand vous avez l'extrême droite qui manipule comme ça, qui instrumentalise, ou la droite libérale, ou le néolibéralisme, vous avez tendance à dire non. Mais il faut se tenir sur cette crête. Il faut vraiment tenir cette contradiction, l'habiter.
D'ailleurs, vous parlez des féminismes plutôt que
toujours,
un féminisme. Et je pense que c'est là où c'est intéressant. C'est pas un féminisme qui existe à un moment et c'est fini, tout le reste est effacé, quoi. Que pouvons-nous apprendre des différentes réalités qui ont existé et qui nous apprennent la condition humaine à travers des siècles ?
Et que nous apprenons encore. Oui. Et que nous apprenons encore, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui émergent beaucoup plus. Par exemple, je ne sais pas, le féminicide au Brésil, la manière dont c'est dénoncé, est très fort et ne va pas être de la même manière qu'en France. Mais ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre ou moins important que l'autre. Mais au Brésil, ça va partir d'une analyse aussi beaucoup plus d'oppression raciale et sociale liée à un passé historique et liée à un présent tout à fait présent, quoi. Ça ne s'explique pas que, évidemment, le passé l'explique, mais aussi le présent. La violence absolue des régimes aujourd'hui, la manière dont des forces politiques s'imposent par la violence systémique est aussi un phénomène du présent.
Je découvre via votre livre, avant j'utilisais le terme intersectionnalité, mais vous dites que c'est peut-être pas le bon terme à utiliser, peut-être que multidimensionnalité est plus approprié, parce qu'il y a des personnes qui sont oubliées dans ces interstices.
Oui, alors intersectionnalité a été évidemment extrêmement utile et puis l'est toujours. Puis parfois on peut l'utiliser justement pour signaler quelque chose d'autre que le binaire. Mais on se souvient au départ, c'est quand même un terme dans le monde juridique. Où Kimberlé Crenshaw examine une femme qui est travailleuse et qu'elle ne peut pas se plaindre simplement comme femme, elle est aussi noire. Et travailleuse. Donc ces trois choses, si elles ne sont pas considérées dans la lutte, par exemple syndicale ou dans la lutte contre les discriminations, quelque chose va être perdu. Et c'est vrai que ça a été très important. C'est des choses déjà que Angela Davis disait dans Femmes, Race, Classe en 1983, ou que des femmes ont dit, même bien avant, les femmes dans les mouvements anticoloniaux l'ont dit. Nous ne sommes pas que femmes, nous sommes aussi colonisées. Donc pour nous, par exemple, notre féminisme, c'est aussi de libérer notre peuple de la domination coloniale et de retrouver notre territoire, notre terre, notre souveraineté. Donc, il est vrai que c'est très important, mais c'est aussi de dire que les choses évoluent. Parce que les situations évoluent, les luttes, il y a toujours des luttes à mener parce qu'elles n'ont pas été gagnées, les victoires ne sont pas là, mais il y a de nouveaux fronts qui s'ouvrent. La manière, par exemple, la Palestine aujourd'hui ouvre un front qui est évidemment en écho avec d'autres fronts de lutte, mais qui cause quand même quelque chose de nouveau. parce qu'il y a une meilleure compréhension aussi dans le monde de ce que c'est le colonialisme de peuplement et les liens entre colonialisme de peuplement et démocratie libérale. Et bon, certains d'entre nous le voyaient, mais aujourd'hui, c'est clairement mis en lumière.
C'est explicite.
C'est explicite. Donc, ouais. Ça permet aussi d'ouvrir un nouveau champ de comment comprendre ça. Et donc, là-dedans, comment un féminisme décolonial, antiraciste, anti-impérialiste va se situer.
Si on passe au dernier chapitre, entre guillemets, comment naviguer parmi toutes ces luttes-ci ? Petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo, le média digital TIT. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous essayez de mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons et comment agir de manière systémique. Avec tout le contenu qui explose sur Internet et YouTube, il est compliqué de trouver du contenu de qualité et sourcé. Et c'est là qu'intervient TILT. Ce média digital, vous pouvez le trouver sur YouTube et Instagram, mais aussi sur leur site tilt.fr, propose du contenu de qualité pour comprendre et agir face aux grands enjeux mondiaux tels que les inégalités sociales et environnementales, le réchauffement climatique, le droit des femmes et bien d'autres. En lien avec la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose cette vidéo qui explique pourquoi les femmes sont plus touchées par le changement climatique et explore comment s'articulent les enjeux climatiques et les inégalités de genre. Bonne découverte et de retour à la vidéo. Si on parle d'un futur, d'une société postcoloniale ou de la décolonisation, comment on apprend des luttes passées ? Il y a des connaissances qui se transmettent d'une lutte vers une autre. Comment on construit ou co-construit un socle de connaissances pour ne pas perdre, pour ne pas répéter ces manipulations, ces erreurs, ces exploitations ?
Je dirais qu'il y a des méthodes de lutte qui ne changent pas. Occuper la rue, occuper les endroits, les espaces, manifester, pétitionner, construire des rapports de force, extrêmement important, pousser pour des lois tout en sachant que de toute façon, une fois qu'elles seront votées, elles seront très limitées par rapport à ce qu'on a demandé, mais quand même, ça fera peut-être un petit progrès. Construire constamment des refuges et des sanctuaires. Ce que j'appelle refuge et sanctuaire, ça peut être autant une librairie où on va trouver les livres qu'il faut que des centres de parole, des endroits où on peut discuter, on peut se reposer aussi. La solidarité, construire la solidarité avec les migrants, les réfugiés, les travailleurs et travailleuses du sexe, les trans, enfin, les femmes, tous les opprimés. Être auprès de ces personnes dès qu'elles font grève, dès qu'elles occupent quelque chose, dès qu'elles manifestent, dès qu'elles nous demandent de signer une pétition ou d'être présents avec nos corps dans un endroit. Depuis que les sociétés existent, je ne vois, ça n'a pas beaucoup changé d'une certaine manière. Il y a quelque chose du corps qui s'exprime avec la voix qui s'exprime. Et parfois c'est une voix seule dans une assemblée ou parfois c'est par la puissance des corps ensemble. Si je regarde, je sais pas, moi, le 17e ou le 16e, ou bon, avant, jusqu'à aujourd'hui, au 21e, je vois des gens qui se lèvent partout et qui s'organisent pour défendre une forêt, une rivière, un travail, contre une expulsion pour des personnes précarisées, en difficulté. Maintenant, je pense qu'on est confronté aussi par des ennemis beaucoup plus. Ce qui ajoute, c'est le désastre climatique, qui quand même est nouveau et qui pose quand même une question profonde. Mmh. Et aussi, l'écart grandissant, je dirais, entre les incroyables découvertes technologiques, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, enfin tout cela, qui sont vraiment énormes, avec une capacité de reproduction énorme et de rapidité, et la lenteur des progrès. Dans la vie quotidienne de milliards de personnes. Et cet écart est grandissant. Mmh. Et il a semblé se réduire un peu au XXe siècle, surtout dans les moments de décolonisation, quand même de la santé et de l'éducation sont arrivés dans plein de pays.
Progrès social, même si c'est difficile de le...
Mais aujourd'hui, la dévastation climatique fait qu'il y a des endroits où il y avait des personnes qui vivaient de la terre, ne peuvent plus vivre de la terre, ou ne peuvent plus vivre de la mer. Et puis, tout ce que ça a créé, les nouvelles maladies, les nouvelles épidémies, les immenses inégalités qui se creusent, Et ça, face à ça, nos moyens de lutte vont rester les mêmes. Je veux dire, écrire, analyser, diffuser ces idées par tous les moyens, par le chant, le poème, le texte, la déclaration, la manifestation, que sais-je. Lutter contre la torture, l'emprisonnement, la censure, l'instrumentalisation, ici d'antisémitisme, là-bas de l'anti-hindouisme, enfin de toutes les... Et puis d'affronter aujourd'hui ce que moi j'appelle une contre-révolution globale, d'une extrême droite, alors on veut l'appeler comme on veut, j'ai pas envie de jouer sur les mots, enfin qui va de Bolsonaro à Modi, Orban, Meloni en Italie, Trump, et puis tous les mouvements d'extrême droite qui arrivent au pouvoir en Europe, et qui est aussi pour moi une contre-révolution hétéronormée masculiniste, qui s'attaque énormément donc au corps. Je veux dire, quand on voit un Javier Milei en Argentine ou un Trump, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de démonstrations. Donc, il y a quelque chose quand même d'un moment qui est différent de la deuxième moitié du XXe siècle, où il y avait des guerres impérialistes, il y avait des destructions, des dévastations, oui. Mais là, on est face quand même avec aussi le pouvoir de milliardaires, qui est beaucoup plus important qu'il ne l'était à la fin du XXe siècle. Ouais. Qui sont capables de dicter aux États, qui sont plus puissants que les États. Un Elon Musk est plus puissant que la NASA, par exemple. Donc, on est face aussi à ces nouvelles formes de domination qui s'exercent pas nécessairement par qui s'exercent à la fois par l'ancienne forme de colonisation, de prendre les terres, approprier les terres, transformer les personnes en objets, tout cela, mais quand même qui face à ces technologies.
Il y a l'esprit également qui rentre dans cette
équation. Et l'esprit également, l'incroyable hubris, l'incroyable arrogance, cette idée que nous savons mieux que les autres, dont nous allons aussi leur intervention dans l'éducation. On le voit beaucoup aux États-Unis, mais on le voit aussi en Inde, on le voit ailleurs. C'est-à-dire l'intervention dans l'éducation, c'est-à-dire vraiment une reprise. Non, c'est pas comme ça. Les sciences sociales, les humanités dehors, les sciences du computer, oui, et du business, oui. Enfin, il y a une contre-offensive. Qui pour moi est préparée depuis très longtemps, est préparée en fait depuis l'après-deuxième guerre mondiale ou entre les victoires sociales, on pourrait dire, dans le Nord, mais aussi toutes les décolonisations dans le Sud et les désirs aussi de mieux-être et puis de tentatives d'organiser d'autres formes que le Nord-Sud. Pendant ce temps-là, tous ces gens se penchaient sur comment organiser la contre-révolution. Comment remettre la domination. Et il me semble que, si vous voulez, ce sont des classes dominantes qui se battront pour leur intérêt, mais avec toutes les armes possibles, qui sont des classes dominantes très déterminées à préserver leur pouvoir, qui ont un mépris pour la masse, comme on peut dire, quoi, pour ce qu'ils voient comme des masses, pour eux, indifférenciées.
On doit contrôler leur naissance.
Puis s'ils meurent, qu'est-ce que ça peut faire ? On va construire des villes artificielles, des îles artificielles, on va vivre autrement. Et ça se fait déjà. Ce monde en enclave, il est là. Il est déjà là. Il n'est pas pour demain. Il existe déjà de ces endroits préservés où on va avoir des papillons et des oiseaux et de l'eau propre et des enfants qui peuvent jouer dans l'eau, tout ça, et à côté de ce qu'on appelle les bidonvilles ou des slums, enfin peu importe, et vraiment de gens qui ne mangent pas trois fois dans la journée, qui certainement pas toutes ces choses. Donc l'écart aussi grandissant entre un discours de protection dans l'environnement, protection de l'enfance, tout ça, etc., de plus en plus comme ça, de protection. Et de l'autre côté, des milliards de personnes qui ne seront pas protégées. Protégées ni des maladies, ni de l'eau polluée, ni du manque d'éducation, ni de manque de logement, ni de rien. Peu importe. Et cette construction, et je la trouve beaucoup plus forte, parce qu'il y a eu quand même, c'est vrai, il y a eu un recul de ces avancées. La dernière grande expérience a été le régime d'Allende, en Amérique du Sud. Et là, la volonté de mettre fin, c'est quand même un coup d'État absolument meurtrier qui met fin. Et l'arrivée des Chicago Boys, c'est-à-dire de ces élèves de Friedman et d'autres, qui vont imposer une politique économique que l'on verra plus tard à travers les programmes d'ajustement structurel, qu'on verra être imposé à la Grèce, à l'Espagne, quand on arrive en Europe, et qu'on voit s'imposer aujourd'hui partout. C'est la fameuse austérité. Et donc, on voit, si vous voulez, qu'il y a eu une organisation, si vous voulez, de deux gens, ce qu'on appelle aussi le libertarianisme, que je trouve qui est assez négligé en Europe comme idéologie, et qui était « nous savons mieux ce qui est bon, et nous allons faire en sorte que ça s'impose ». Et tous ces gens qui réclament, ce sont en fait des paresseux, des fainéants, qui ne veulent pas travailler, qui veulent pas... Et ça, c'est au fur et à mesure imposé. Donc pour moi, aujourd'hui, quand vous posez la question, c'est comment nous allons combattre aussi tout cela. Comment nous allons combattre cette contre-révolution, qui est vraiment aujourd'hui, qui a les moyens des médias, et qui a les moyens, et puis qui impose ces formes d'éducation. Je veux dire, l'éducation publique est extrêmement attaquée aujourd'hui. L'université est attaquée. Tout est attaqué. La jeunesse est attaquée. Les enfants sont attaqués. Sauf ceux des classes dominantes. Et quand je dis classe dominante, je dis bien classe dominante partout.
Ouais.
Pas du tout seulement en Occident. Hein, je veux dire, voir les classes dominantes...
En Chine, en Inde.
En Chine, en Inde, ouais. ou au Mexique, ou en Équateur. Enfin, c'est effrayant. Effrayant. C'est, je veux dire, c'est des classes dominantes racistes, patriarcales, sur lesquelles ce modèle, d'ailleurs, tout le monde mafieux, qui devient aussi l'ennemi, alors que c'est en fait le miroir des classes dominantes.
Est-ce qu'il y a des exemples de luttes contemporaines ou passées qui pourraient nous inspirer pour cette contre-révolution qui...
Éducation, je dirais. Éducation. Se battre contre toutes les formes de désinformation, d'instrumentalisation. On le voit, par exemple, en Europe, l'instrumentalisation de l'antisémitisme aujourd'hui, qui fait que annulation d'exposition, annulation d'événements, annulation de conférences, et diffamation des personnes complètement qui perdent leur travail et tout. C'est effrayant, ce qui se passe. Absolument effrayant. Donc, on voit qu'il va falloir s'organiser contre ça. Et moi, je pense quand même que beaucoup, l'éducation, c'est-à-dire se redire... voilà, on ne peut pas se soumettre à ces classes dominantes. Et puis, je dirais, imaginez ce monde post-raciste, post-patriarcal, post-capitaliste. Commencez à l'imaginer. Enfin, commencez, ça a déjà été fait, hein, ce que c'est déjà fait. Parce que la dévastation, elle est là. Et ça va vouloir dire, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les villes, au nord, ça commence. Je veux dire, ça s'étend. Ce capitalisme est absolument destructeur, dévastateur. Je pense que toutes les luttes écologiques sont importantes, environnementales, mais qu'il faut que ces luttes tiennent compte du racisme environnemental, de l'environnementalisme décolonial, sinon ça ne servira à rien. Je pense aussi que, par exemple, pour moi, en Occident, renouveler la lutte contre le militarisme, parce que, je veux dire, on n'a jamais vu autant d'armes produites et vendues à travers le monde. Je pense qu'il y a quand même... Moi, je suis très confiante dans le glissement que je vois apparaître dans la jeunesse, de cette compréhension, finalement, après des années, après les mouvements Black Lives Matter, après les mouvements autochtones, les mouvements antiracistes, les mouvements des féministes radicaux, tout ça, de compréhension de toutes ces formes de domination. Et comment elles interagissent entre elles. Et de voir toutes ces mobilisations, des soulèvements de la terre en France ou d'autres, mais aussi aux Antilles, contre le chlordécone, ou au Pérou, ou ailleurs. Enfin, on est dans ce moment de glissement. Et on voit aux États-Unis toute cette mobilisation contre l'occupation de Gaza et la guerre, le massacre à Gaza. C'est énorme. C'est absolument énorme. Vraiment. Donc on est dans ce moment là, et alors avec un sentiment d'extrême danger, mais on est aussi dans ce moment. On est dans ce moment extraordinaire de bouillonnement, théorique et de bouillonnement de forme d'organisation. Et puis de peut-être aussi de penser quelles ont été les causes des défaites. puisque si vous posez la question sur le passé, quelles ont été les causes des défaites de ce qu'on a appelé le printemps arabe, de la Syrie quand même, et l'horrible chose, le Liban, la Grèce, l'Espagne, tous ces, et le Pérou, le Mexique, tous ces moments où le Brésil, où on voit surgir des choses extraordinaires, etc. Et puis le fait bon, qu'il y ait des reculs, c'est pas tellement ça, c'est les défaites plutôt qui m'intéressent. Mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a manqué par rapport à votre question, qu'est-ce que le passé peut nous apprendre. Mmh. Parce que dans le passé, nos ancêtres se sont été confrontés à des choses aussi terribles. Pas le changement climatique, d'accord, civiles, guerres civiles, des gens en face avec des mitraillettes et eux avec des bâtons. Enfin, je veux dire, la moindre insurrection, tout le monde pendu le long des voies. Enfin, je veux dire, on est là, des massacres effrayants pendant la conquête coloniale. Enfin, des populations traumatisées. Et puis encore dans les années 60, des génocides, le génocide en Indonésie, puis on parle les génocides en Europe faits par les nazis. Enfin, je veux dire, dans les temps les plus sombres, où on avait l'impression que vraiment, il n'y avait rien, il y a toujours eu des voix et des personnes qui se sont levées au fin fond des prisons. Et je ne parle pas seulement de l'Europe, je ne parle pas seulement de l'Occident, mais de la dictature au Brésil, de la dictature en Argentine, enfin même de régimes dictatoriaux sur le continent africain ou ailleurs, il y a quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas les premiers à être confrontés à des ennemis formidables au sens de qui ont des armes, mais que nous ne sommes pas non plus démunis. Ouais. Voilà. Il faut qu'on n'ait pas peur de mettre là tous les monstres. Mmh. Voilà. Bon. Alors, tiens, on a remarqué que là, il y a un petit espace où on peut jeter des cailloux, du sable pour que la machine s'enraye, ou là. Et donc, on observe, ce sont des stratégies constamment renouvelées, on le voit d'ailleurs, et constamment repensées, mais qui ont toujours eu quand même pour objectif d'enrayer la machine, de l'arrêter. De l'arrêter parce qu'on sait que ce sont des machines de mort. Et puis, je dirais peut-être ce qu'il faut aussi entretenir, c'est la joie. Vraiment la joie, quoi, parce que vraiment, c'est pas un monde joyeux. Hein. Oh, c'est vraiment pas un monde joyeux, quoi. Ouais. Donc, de se dire, oui, il faut quand même entretenir aussi les moments de joie. De joie pure, sans objectif, si je puis dire, quoi. Je veux dire, faire la fête, quoi. De préparer un bon repas entre amis, et puis si on aime boire, on boit, et puis si on n'aime pas boire, on boit d'autres choses. Si on n'aime pas le vin, on boit d'autres choses. Et puis, voilà, parce que c'est un monde qui n'aime pas la joie. Qui aime la joie artificielle, fabriquée. Mais qui n'aime pas la vraie joie. Il n'y a qu'à voir à quel point ils ont horreur, justement, des joies dans la rue.
Ah ben oui. Donc la dernière question souvent, c'est pour mettre des imaginaires ou pour proposer quelque chose à lire, à découvrir, un film, une musique, quelque chose pour peut-être cette fameuse joie, ou alors, on a parlé d'Angela Davis, on n'a pas mentionné Silvia Federici avec le revenu pour le travail dans le ménage, mais il y a énormément de lectures qui sont passionnantes.
Je sais pas, j'ai toujours du mal parce que je veux pas privilégier un livre.
Vous pouvez en donner plusieurs, il y a pas de souci.
Mais ce que je voudrais, c'est encourager à la lecture. Et pas seulement les essais, mais la littérature. Il faut absolument lire de la littérature. Souvent, dans la littérature, on trouve ce qu'on n'a pas trouvé dans la théorie. L'expression de sentiments, et puis vraiment de choses. Moi, ce qui me frappe, c'est, je lis beaucoup de littérature de partout, et de personnes qui ont été traduites en anglais ou en français, c'est-à-dire les deux langues que je lis, et donc qui viennent de pays dont je connais rien, la langue, je connais pas leur langue, et pourtant ça me parle. Et c'est ça que je trouve fort. Donc lire tout ce qu'on a sous la main, lire, laisser tomber le téléphone et lire, et puis aller au cinéma. Pareil, pour moi, c'est plutôt que de dire un film, tout ça, c'est en fait de cultiver sa curiosité et de se dire que c'est jamais épuisé. Oui. C'est absolument jamais épuisé. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Pour moi, c'est ça qui me tient. Je trouve ça formidable, quoi. C'est Puis la beauté, il y a quand même la beauté, ne pas s'interdire. Alors qu'est-ce que c'est pour soi la beauté? Peu importe, mais quelque chose. Et puis, d'être du côté de la vie, vraiment du côté de la vie. On n'est pas là pour toujours, donc le temps où on est là, d'être du côté de la vie, c'est-à-dire de vraiment, et de refuser ces régimes de mort. Donc, ça prend des tas de formes, vraiment, je sais pas. Moi, j'aime faire la cuisine, par exemple, c'est de cuisiner pour beaucoup pour les amis, qui sont toujours très contents de venir chez moi, parce qu'ils savent qu'ils vont bien manger, et que je me mets, je prends vraiment, je réfléchis. Longtemps à l'avance, qu'est-ce que je vais leur faire? J'essaie de voir, je vais au marché, tout ça, j'y pense. C'est pas un petit truc comme ça, non, c'est vraiment, c'est sérieux là, c'est un truc sérieux. J'aime aussi faire de la couture, donc offrir des choses que je fais à des amis, voilà, parce que c'est fait de mes mains. Et donc ça, c'est ben voilà, d'abord j'ai pris du temps, et ça exige absolument de la patience de coudre. Ça, on peut pas du
aussi, oui.
On peut pas du tout être impatiente, et ça c'est bon pour moi. Et puis peut-être accepter d'être bousculée, accepter d'être questionnée, de se dire tiens, j'ai pensé ça depuis longtemps, j'avais ça fermement, et peut-être que non, donc s'autoriser, et puis peut-être qu'à la fin non, on reviendra à cette opinion qu'on avait ou que ça sera changé. Ça, c'est vraiment, c'est pas toujours facile. Il y a quelque chose que je voudrais dire, si vous permettez, c'est que je trouve que, par exemple, puisqu'on a parlé de personnes, enfin de personnes avant, de lutte avant, je trouve qu'une des choses qui a été beaucoup abandonnée dans le monde, je sais pas comment l'appeler, révolutionnaire, gauche, je sais pas, enfin, c'est toute la question psychique qui a été extrêmement importante dans les années 60-70. Bon, on cite toujours Fanon, mais on pourrait citer Bassaglia en Italie, Link en Angleterre, l'école de Dakar, l'école d'Afrique du Sud, l'Argentine évidemment, le Mexique, enfin, toute une série d'intérêts, Ashish Dandi en Inde, c'est-à-dire de qu'est-ce que ça voulait dire, comment le colonialisme attaque le psychisme, comment l'hétéronormativité attaque le psychisme aussi, donc pas seulement la représentation du corps, et de prendre la maladie aussi, ben comme le disait Toscaïas, qui a été le maître de Fanon, la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui peuvent être réintégrées dans la société, parce qu'elles vont pas bien, mais c'est pas c'est de l'ordre du possible. Et je trouve que cette lutte a été quand même très marginalisée aujourd'hui, et très laissée à l'industrie chimique, ou à l'industrie du développement personnel, ou va-t-on savoir quoi. Et que ça, c'est une grande perte, parce que la psychologisation des luttes, enfin de ce que devraient être les luttes, des rapports de force, ah non, mais c'est pas ton supérieur qui t'emmerde, c'est toi-même qui dois faire un effort sur toi.
Oui, c'est une nouvelle frontière de...
Et a été vraiment aussi à contribuer à cette contre-révolution dont nous parlions. Donc, reprendre cela. Parce que le capitalisme racial patriarcal ne détruit pas seulement la planète, l'environnement et les corps et les espèces non humaines, mais aussi le psychisme. C'est une arme, donc il faut aussi réinvestir cet espace.
J'espère que vous toutes et tous avez également été un tout petit peu bousculés, bouleversés par la discussion. N'hésitez pas à nous partager vos luttes. Je pense qu'on peut apprendre énormément par ces luttes du passé. Et puis, n'hésitez pas à regarder quelques autres épisodes. On avait parlé avec Raj Patel sur ces questions de Madère, par exemple. On avait parlé avec Juan Martínez Arrière sur l'écologisme des pauvres. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vous balader sur le podcast. Encore merci, Françoise Vergès.
Merci.